au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Avec Philippe Lagu qui va continuer de nous parler de Continental, Philippe.
Ben parce que là, je pense que je suis rendu au bout le plus intéressant, hein, la quatrième génération.
Ouais.
C'est vraiment celle qui va marquer les esprits, la plus célèbre, la plus emblématique. C'est celle du président canadien, bien sûr. Mais on l'a aussi vu dans beaucoup de films et des séries télé. Dans ma jeunesse, c'était la voiture du couple de la série Les Arpents Verts. T'as connu ça toi aussi.
Ouais.
Mais elle est aussi en vedette dans Entourage, qui est une série quand même pas mal plus récente, là. Même chose pour le cinéma. Pensez à California ou à The Matrix, deux films cultes. Puis d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi encore dans des productions récentes. Parce que la Continental des années 60 avait un design avant-gardiste qui a très bien vieilli et qui en fait aujourd'hui une voiture cool, qui n'est pas juste appréciée par les vieux nostalgiques comme moi, là. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est une voiture qui est très recherchée par les amateurs de voitures modifiées. C'est un modèle qui a une signature esthétique, une très forte présence aussi. Hein. C'est une limousine d'une autre époque qui peut avoir l'air d'une voiture de gangster, mais sans avoir l'air kitsch, sans avoir l'air quétaine. Regardez la Chrysler 300 actuelle, puis vous pouvez y voir une nette influence. Hein. La ceinture de caisse haute, là, c'est pas Chrysler qui a inventé ça, ça existait bien avant les années 2000. Là. Et ce chef-d'œuvre, parce que c'en est un, on le doit à Elwood Engel, qui a ensuite quitté Ford pour devenir le patron du design chez Chrysler. Alors, je vous ramène en 1958, c'est Robert McNamara qui est le président de Ford, le même McNamara qui va ensuite se lancer en politique pour devenir le secrétaire à la défense de Kennedy et de Lyndon Johnson. McNamara, donc, demande à deux de ses designers, il les met en compétition carrément pour dessiner une remplaçante pour la Thunderbird. Il va ensuite en choisir une des deux. C'est le design de Joe Oros qui va finalement être retenu pour la Thunderbird de troisième génération, sauf que McNamara a beaucoup aimé l'autre proposition. Et il va donc demander à Engel d'ajouter deux sièges et deux portes au modèle qu'il a dessiné. Et c'est ce qui va devenir la Lincoln Continental 1961, celle de quatrième génération. Et on va aussi rajouter une version décapotable qui va être marquante pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la première décapotable à quatre portes de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ensuite, c'est celle qui va être au centre d'un des événements les plus dramatiques de l'histoire américaine contemporaine, hein, un certain jour de novembre à Dallas. Et c'est aussi la dernière décapotable américaine à quatre portes. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Puis évidemment, il faut mentionner les fameuses portes suicides qui sont indissociables de ce modèle. Et très important pour d'autres aspects, peut-être un peu plus rationnels, c'est aussi la Continental qui a sauvé la marque Lincoln, hein. Lincoln qui accumulait les pertes depuis des années. Et après le fiasco et la disparition prématurée de la marque Edsel, Robert McNamara jonglait aussi avec l'idée de supprimer la marque Lincoln. Et le reste, comme on dit, ben, appartient à l'histoire. La quatrième Continental a été un succès sur toute la ligne, autant critique que commerciale, et elle a connu une longue vie, hein, 9 ans. Ce qui était exceptionnel dans l'industrie automobile américaine, ce l'est encore aujourd'hui. Et ça, ça veut dire qu'elle a traversé la très tumultueuse décennie des années 60 au complet. Il y a eu des révisions, des retouches en cours de route, mais pas de refonte majeure. Et c'était voulu ainsi. La direction de Ford voulait pas que les Lincoln aient le même cycle de remplacement que les Ford ou les Mercury. Alors, la Continental de quatrième génération, le problème, c'est qu'elle a placé la barre très haute, peut-être même trop haute, parce que la génération suivante va durer, elle aussi, une décennie complète de 1970 à 79, mais on peut pas dire qu'elle va laisser sa marque. Ce qu'on va surtout retenir, c'est que c'est la dernière grosse continentale, parce qu'à la fin des années 70, Détroit vit à l'heure du downsizing, de la réduction du format de ses véhicules, et ça, ben, c'est une conséquence directe du premier choc pétrolier de 1973. Alors, la Continental va d'ailleurs être ce qu'on pourrait appeler le dernier dinosaure, parce que quand elle termine son cycle, en 1979, c'est la plus grosse voiture américaine en production. Pour sauver de l'argent, la Continental n'a plus de châssis ni de moteurs qui lui sont propres. Elle devient une sorte de clone de luxe des Ford LTD et Mercury Marquis, dont elle reprend d'ailleurs la plateforme et le plus gros des V8, le 460. C'est pas une voiture qui est très belle non plus, surtout à partir de 1975 avec les énormes pare-chocs là, qui étaient rendus nécessaires par les nouvelles normes américaines de sécurité. C'est tout sauf élégant. Bref, vous l'aurez compris que ce ne sont pas les années les plus glorieuses. Hein?
Non, pas du tout.
Et ça ira pas en s'améliorant, parce qu'en 1980, Ford est en plein processus de downsizing, met ses grosses berlines dans la sécheuse pour qu'elles rapetissent. Puis esthétiquement, ben, le résultat est, disons, discutable. Et surtout, ça vieillit très mal. Vous avez juste à regarder les photos sur ma page Facebook pour le constater. Là. C'est pas très glorieux. Par contre, ce processus de rapetissement a aussi des bons côtés. Les Lincoln sont moins grosses, donc plus légères, et elles consomment beaucoup moins. On parle d'une amélioration globale de 38% pour tous les modèles de la gamme Lincoln. À partir de 1982, la Continental et la Town Car deviennent deux modèles distincts. La Continental devient la concurrente désignée de la petite Cadillac, la Civil, petite entre guillemets, là. Tandis que la Town Car se veut la grosse Lincoln, même si dans les faits, elles sont à peu près du même format. En fait, la Continental remplace, en 1982, la Versailles, qui était une Ford Granada grossièrement maquillée et qui a été à Lincoln ce que la Cimarron a été pour Cadillac, c'est-à-dire un échec retentissant. Et la Continental de 7e génération va être la dernière à avoir un moteur V8 et des roues motrices à l'arrière. Hein, parce que pour la 8e génération, Lincoln réinvente sa Continental. Faut dire qu'on est à la fin des années 80 et que les choses ne sont plus aussi simples. Parce qu'avant, la concurrence de Lincoln, ça se limitait à Cadillac et, dans une moindre mesure, à Impérial, mais c'était surtout une lutte à deux entre les deux rivaux de toujours, GM et Ford. Mais à la fin des années 80, les constructeurs allemands sont devenus des joueurs importants, des joueurs majeurs dans l'univers des voitures de luxe. Et à Détroit, on sait que les Japonais se préparent. Honda est déjà là avec Acura. Toyota et Nissan s'en viennent avec Lexus et Infiniti. Alors, Lincoln va donc positionner sa Continental contre les voitures de luxe importées, tandis que la Town Car continue de porter le flambeau du gros char de luxe américain avec un V8. La Continental est métamorphosée. Pour la première fois, ses roues motrices sont à l'avant, son moteur est un V6, puis sa plateforme, ben, c'est celle de la Ford Taurus. Le résultat, malheureusement, est loin d'être à la hauteur des attentes, parce que sur le plan esthétique, premièrement, c'est vraiment générique. La Continental a l'air d'une Mercury Topaz allongée. Et pour le reste, ben, on est à des années-lumière des Allemandes, là, que ce soit sur le plan dynamique ou en matière de raffinement. Moi, c'est la première Continental que j'ai conduite et j'en conserve pas un souvenir impérissable, loin de là, ni d'elle, ni de sa remplaçante d'ailleurs. Parce qu'à la 9e génération, en 1995, là, Daniel, il était vraiment temps que ça finisse, là. Le design était encore plus terne que celui du modèle d'avant, ce qui était une sorte d'exploit, fallait quasiment faire exprès. Et l'écart continuait de s'élargir entre la Continental et ses concurrentes allemandes et asiatiques. Non seulement ça ne s'améliorait pas, ça se détériorait, et ça s'est terminé en 2002 là, dans l'indifférence générale. Entre-temps, la Continental a été remplacée par la Lincoln LS, qui partageait sa plateforme avec la Jaguar S-Type à l'époque où Jaguar appartenait à Ford. Et ça a été la tentative la plus sérieuse à ce jour-là pour affronter les Allemandes. Malheureusement, les acheteurs n'ont pas suivi. Il faut dire que la LS n'était pas aussi raffinée que la Jaguar non plus. Et depuis ce temps, ben, Lincoln se cherche. Et jusqu'à maintenant, n'a pas réussi à se réinventer comme Cadillac. Par contre, on l'a vu avec la MKZ, dont on a parlé à cette émission il y a quelques semaines. On est dans la bonne direction, ce que confirme ce que vous avez vu à Détroit, toi et Marc, et ce que confirme aussi la nouvelle Continental dont j'ai pu faire l'essai, et toi aussi, Daniel.
Bien sûr.
Alors, il a fallu attendre
Fini la voiture de service ou de valet parking ou de taxi.
Ben, écoute.
Là, on passe à autre chose.
Je vais te poser une question. Alors, il a fallu attendre 15 ans avant que la Continental revienne. Mais moi, je pense que l'attente en valait vraiment la peine. J'en ai fait l'essai l'été dernier, puis il faut que je le dise, là. C'est une de mes plus belles surprises cette année. Moi, j'ai tout aimé de cette voiture. Alors, ma question, Daniel, est-ce que tu partages mon enthousiasme?
Oui, j'ai été obligé. Hey, Philippe, écoute, j'ai creusé là, pour essayer de trouver un défaut à cette voiture-là.
Non, sérieux, là?
Et à un moment donné, il a commencé, moi je l'ai eu là, très tôt au printemps passé, il commençait à faire froid. Alors, j'ai activé les sièges chauffants et les sièges sont tellement confortables et épais que le seul défaut que j'ai réussi à trouver, c'est que ça prend du temps avant d'avoir ton siège chauffant. Ah ouais? Alors, tu vois que j'ai creusé.
C'est ça, faut être créatif, hein?
Et voilà.
Écoute, c'est une voiture qui est belle, la ligne est sobre, c'est digne de la grande époque des Continentales. C'est une voiture qui en impose aussi, qui ressemble vraiment à une berline de luxe, qui ressemble pas à une Ford déguisée. Alors ça, moi, c'est...
Ah non, ça, c'est clair.
Et qui est belle, hein, sous tous les angles. Ça aussi, faut le dire. Puis la présentation intérieure, non, mais quand même, là...
Voilà.
Hein? C'est cossu, mais c'est pas kitsch, heureusement, parce que chez Lincoln, on a déjà connu ça. C'est un environnement qui est moderne. Le système d'infodivertissement est bien conçu. Il est facile à utiliser. Il est très convivial. Et là, c'est un techno idiot qui parle. Ces sièges, tu l'as dit. Moi, écoute, je les ai trouvés fabuleux. Ce sont les sièges les plus confortables dans lesquels je me suis assis cette année. Soin apporté à l'insonorisation de son habitacle est vraiment très poussé. Mais c'est ça, ils sont longs à chauffer.
Ils sont longs à chauffer, puis prévoyez quelques minutes pour les ajustements. Parce qu'il y a tellement d'ajustements sur ton siège. Que pour trouver la bonne position de conduite. Tu penses que tu as la bonne position, tu joues encore avec les commandes, tu en trouves une encore un peu plus confortable. Non, c'est quelque chose.
Tu connais l'expression, hein? Trop, c'est comme passé. Par contre, pour l'espace, si on ne peut pas se plaindre, il y en a beaucoup. Hein? J'ai beaucoup aimé la mécanique aussi, qui est très raffinée. Le moteur V6, il y a deux moteurs, mais le plus gros moteur, le V6 biturbo de 3 litres. 400 chevaux, 400 livres de couple. C'est une voiture qui est rapide, mais qui a beaucoup de couple aussi. Et quelle souplesse, ce moteur-là. C'est vraiment un des meilleurs moteurs de l'histoire de la marque.
C'est clair qu'on va le revoir un peu partout. Il faut le réutiliser.
Oui, mais en même temps, faut conserver une certaine exclusivité à Lincoln aussi. Je veux pas ça dans une Taurus, là.
Non, non, on s'entend.
Bon, c'est une voiture qui peut avoir la traction intégrale aussi, donc parfaite pour notre climat. Et côté comportement, ben là, on peut dire que la Continentale est enfin arrivée au 21e siècle. Là. La tenue de route, c'est plus un concept abstrait.
Non, non, fini le bateau, les mots de cœur, il n'y a plus rien de ça.
Non, excellente plateforme, très rigide. Mais bon, en même temps, si vous voulez une conduite plus affirmée, vous n'êtes pas à bonne adresse, c'est pas une Audi ou une BMW non plus. Et c'est très bien ainsi, parce que c'est pas ce qu'elle prétend être. Lincoln n'a pas fait la même erreur qu'avec les Continentales précédentes et ils ne nous l'ont pas présenté comme une mangeuse d'allemande. C'est plutôt une rivale des berlines de luxe asiatiques, mais elle est plus belle et elle est plus dynamique. Et je te dirais en conclusion que c'est le parfait compromis entre une Lexus et une voiture allemande. C'est pas une concurrente des Allemandes, mais plutôt une alternative. Et c'est de loin la meilleure Continentale que j'ai pu conduire dans ma carrière. Je dirais même la meilleure Lincoln.
Absolument. Toi aussi? Tout à fait d'accord avec toi. Et on doit continuer dans cette direction-là. On voit que cette fois-ci, on a pris les choses en main. On le fait de façon sérieuse chez Ford. Ouais. On voulait avoir une vraie voiture concurrente qui est agréable à conduire, qui est luxueuse, qui va plaire au marché américain comme ailleurs dans le monde, parce que du côté de Lincoln, je pense que on va prendre l'expansion. La Chine est un autre continent important.
Oui.
Alors, on veut vraiment avoir une voiture qui va bien passer partout et être pris au sérieux, parce que là, on est tanné du côté de chez Lincoln, là, c'est pas vraiment une gamme de luxe, c'est une mi-luxe, puis là, c'était la raison pour laquelle Ford était pas pris au sérieux avec Lincoln, c'est qu'on n'osait pas aller plus loin.
Une marque qu'on a failli abolir, d'ailleurs, ça allait mal chez Ford à la fin des années
2000. Vas-y avec une marque de luxe, assume-toi comme tu viens de le faire dans la Lincoln ou fais-le pas.
Puis pige dans ton ADN au lieu d'essayer de te prendre pour BMW ou pour Audi, et au lieu d'essayer de te prendre pour ce que tu n'es pas et tu ne seras jamais. Et tu as dit un mot que je retiens, puis on terminera avec ça. Tu as dit le mot concurrentiel. Écoute, le prix, c'est quand même intéressant. Ça va entre 58 000 et 65 000 $. 65 000 $ pour une Continentale tout équipée. Vous avez 400 chevaux. Vous avez une voiture ultra luxueuse, ultra spacieuse, ultra silencieuse. Moi, je trouve que c'est assez bien visé.
Merci beaucoup, Philippe. Bien gentil. Alors, on fait une pause et au retour, promis, on prend vos appels.
Au réseau Cogeco, Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Nous voilà de retour. Merci pour votre patience, les gens en ligne. On y va immédiatement avec Luce. Bonjour, Luce.
Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais être guidée pour un achat. J'ai actuellement un Q5. Mm-hmm. Et puis, je veux le changer. Je sais qu'il change en 2018. Et j'hésitais en peut-être... le BMW de la même catégorie ou un autre, là, fait que j'aurais besoin de vous.
Est-ce que vous l'avez aimé, votre Q5?
Oui, oui, je l'ai beaucoup aimé. C'est un 2010. Alors, c'est un bout de temps que je l'ai. Et puis, oui, j'ai été très satisfaite du Q5, mais bon, je me dis, là, c'est le temps de...
C'est le temps d'aller voir ailleurs un petit peu. Mais moi, je vais vous conseiller, premièrement, de rester chez Audi avec le nouveau Q5. Ça, c'est mon premier choix parce que l'amélioration est totale avec cette nouvelle génération de Q5. L'environnement intérieur, le bloc instrument, console centrale, la plateforme est nouvelle. Vous allez le trouver plus insonorisé. Vous allez aimer la conduite de ce nouveau modèle-là. Vous allez avoir l'impression, oui, il garde le nom puis à peu près le style, mais vous allez avoir vraiment l'impression de conduire une nouvelle voiture. Quoique, je vais vous dire, allez donc essayer aussi le X3 parce que lui aussi, il a été amélioré. Malheureusement, je ne l'ai pas encore essayé, la nouvelle génération de X3, c'est pour bientôt. Mais le Q5, c'est mon premier choix. Marc, toi?
Tout à fait d'accord. Moi, le X3, je l'aime un peu moins. Je trouve qu'il est plus... on a perdu un peu du confort qui est associé normalement aussi à ce type de véhicule de luxe-là, alors que le Q5, c'est une amélioration profonde. Mais on a quand même gardé la personnalité Audi. Si vous nous dites là ce que vous aimez déjà votre Q5, je pense que vous ne serez pas dénaturé en arrivant avec le nouveau. Ce serait moi aussi mon meilleur choix.
Ah, OK.
Surprenant.
Combien vaut un Q5 aujourd'hui, un 2010? Moi, j'ai le 3.2, là, selon vous.
J'ai pas la gamme de prix, mais c'est 52, 53, puis vous allez pouvoir aller jusqu'au tout près de 70 pour le et plus pour le SQ5, mais je pense qu'entre 55 et 65 000, vous allez être à peu près dans la même gamme de prix. Mais il part à 47, 48, là. Mais là, plus transport, parle... préparation et tout ça. Donc, à peu près dans ces eaux-là. Merci beaucoup d'avoir appelé. Jean est en ligne. Bonjour, Jean.
Bonjour. Ça revient?
Ben oui.
Hey, écoutez, j'ai une question. Moi, j'étais un vieux de la vieille. J'étais un maniaque fini de muscle cars. Bon. Puis, OK. On va rester au niveau Ford. J'ai eu une offre de quelqu'un maintenant. Moteur Ford, 351 clés lune. Le carburateur 6 quarts. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais, là. C'est une Datamazo Pantera, 1971. On me demande 60 000. Est-ce que ça vaut la peine?
ça, là, je vais être franc avec vous. Là. J'ai aucune idée. Mais...
C'est une pièce de collection. Il est en effet...
Est-ce qu'elle est jaune? Parce que non, les jaunes valaient cher.
Non. Elle est rouge, celle-là. Ah.
Mais au niveau du prix, je ne peux pas vous le dire parce que ça prend... et même via téléphone, il n'y a pas grand monde qui va vous donner une grandeur de prix parce que faut voir la voiture, il y a beaucoup
vu,
de...
Je l'ai vu, je l'ai testé même. Ça marche en motadis.
Ben, ça doit. Hein. Mais je ne peux pas vous donner malheureusement de gamme de prix. Je vous dirai n'importe quoi, puis c'est pas l'objectif.
Une autre chose qui m'a impressionné avant de finir, c'est qu'un de mes amis a acheté une Audi TT usagée. J'en revenais pas. Moi, je me disais, c'est un 4, ça marche pas, ça. Mais non, twin turbo. Hey, j'ai eu peur, j'avais l'âge qui lâche le gaz.
TT, c'est-tu la TTRS?
Oui.
Que vous avez essayé? Oui. Oh, belle voiture. Ça, c'est un de mes coups de cœur, la fameuse TTRS.
Oui. Hey, ça marche en motadis, cette affaire-là. Crime.
Ah, c'est impressionnant. Très impressionnant. Merci, Jean, d'avoir appelé. On a Yves en ligne. Oh, Marc est là.
Attends, je voudrais juste préciser, j'ai fait une petite recherche là, rapidement sur des petites annonces, juste par curiosité pour voir comment pouvait valoir une Pantera Datamazo 1974 GT5 avec le moteur 351 Cleveland. On parle de 85 000 $ pour à peu près 22 000 km au compteur. Donc, je vous dis
71,
c'est
dans les prix.
C'est ça. Enfin, je ne vous dis pas que c'est qu'on est tout à fait là-dedans, mais ça devrait tourner aux alentours de ça.
Bonjour Yves.
Bonjour.
Oui, ça vous?
J'ai une question technique pour vous. Je demeure en région, puis je conduis de plus en plus de soir. Je ne sais pas si c'est les modèles récents, mais j'ai de plus en plus de misère avec les phares des nouvelles voitures. Est-ce que c'est normal? Ils sont de plus en plus éblouissants, puis c'est pas si c'est moi qui vieillis ou bien y a-t-il quelque chose à faire pour ça?
Ben, Il y a un peu des deux, Yves.
OK. Ben, je m'ajoute un véhicule plus haut, je change de lunettes ou ben j'arrête de conduire.
On n'arrête pas de conduire, vous n'arrêterez pas de vieillir non plus, mais je pense que maintenant, les phares, et on n'a pas fini, là. Avec les phares OLED, un des problèmes, c'est qu'on les positionne beaucoup trop haut. Et ça, ça semble être la mode de les positionner de plus en plus haut. Et les phares sont les véhicules. Puis évidemment, là sur la route, on croise que du camion ou du sport utilitaire. Donc, la voiture basse, il y en a de moins en moins sur la route. Donc ça, c'est un autre phénomène. Et les phares OLED c'est vrai qu'ils sont de plus en plus puissants et il va arriver des phares au laser là maintenant. Audi, BMW vont proposer, Porsche aussi va proposer des phares au laser. Alors faut espérer que les constructeurs commencent à les positionner un peu plus bas ou la visée soit un peu plus basse parce que vous avez raison qu'ils sont de plus en plus éblouissants.
Il faut préciser que les phares au laser.
Sur les pare-brises?
En fait, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de solution miracle. Ça a d'ailleurs été l'objet de plusieurs plaintes aux États-Unis, ce que vous formulez là, les phares d'ailes. C'est d'ailleurs pourquoi les phares au laser sont censés, et là je vous dis sous toute réserve, être auto-ajustables. C'est-à-dire que quand ils vont détecter une voiture en face, ils vont diminuer d'à peu près 15 degrés leur angle de vision pour éviter d'éblouir les gens. Donc, c'est un problème qui est bien connu dans l'industrie. D'ailleurs, si vous fouillez aux États-Unis, Consumer Reports fait chaque 2 ans ou à peu près un test des phares de voiture, justement pour mesurer leur degré de je sais pas trop comment dire ça.
D'éblouissement.
D'éblouissement.
Mais ce qu'il faut savoir aussi, Yves, c'est que, par contre, d'un autre côté, la sécurité est nettement augmentée parce que la visibilité est plus grande sur les routes. Donc ça, effectivement, de ce côté-là, il y a ça de plus. Mais faut pas se décourager. Je suis persuadé qu'on va...
Je rencontre juste des véhicules utilitaires, en fin de compte. C'est ça que vous me dites?
Principalement, oui. Principalement. Merci, Yves, d'avoir appelé. Très intéressant. Hugo, bonjour, Hugo.
Oui, bonjour. J'appelle surtout pour une information. Je veux savoir ce que vous pensez de la nouvelle Kia Stinger.
Ah, j'ai hâte de l'essayer. C'est ça que j'en pense. J'ai vraiment hâte de les... Écoutez, c'est une 4 portes coupée, là. C'est le nouveau style qui est rendu à la mode. Mais voici la voiture qui va probablement donner plus de crédibilité à Kia. Ça, c'est la première des choses. Je pense que cette voiture-là vient crédibiliser. Puis c'est ça qu'on veut offrir du côté de chez Kia. Beau design intérieur-extérieur, belle motorisation. Vraiment, là, je pense qu'on est dans la bonne direction avec ce véhicule-là. Oui, il partage des composantes avec Genesis, entre autres, des plateformes avec le reste, mais au niveau de la qualité, et pas à Détroit, mais à Los Angeles, d'où on arrive, ils nous ont parlé justement de la Stinger, qui est nommée une des voitures nord-américaines, là, qui est en liste pour être la voiture nord-américaine de l'année. Mais ils ont fait, c'est quoi? C'est 800 séances de drift avec la voiture au CIMO Show, et il n'y a eu aucun problème. Aucun problème avec le véhicule. Alors, c'est bien parti.
Et bon, elle arrive à peine chez les concessionnaires. Il y a des journalistes qui ont eu l'occasion d'aller l'essayer au cours et je n'ai lu aucune mauvaise critique de ce véhicule-là. Je connais même un journaliste qui est un peu sportif, qui a réussi à suivre des Porsche 911 avec la voiture sans trop de difficultés. Donc, c'est une voiture très maniable, avec amplement de puissance. C'est vraiment suffisant.
Son 3.3, là, j'ai vraiment hâte d'essayer. Je pense que c'est le moteur qui va se vendre le plus. Son prix est raisonnable. La qualité initiale de Kia, bon, qui sont les premiers pour la qualité initiale du produit, ça va être une voiture, si elle vous intéresse, je vous conseille d'aller l'acheter ou d'aller la chercher tout de suite, parce que d'après moi, rapidement, elle va devenir rare.
Ouais, j'ai l'impression. Mais j'ai bien hâte que vous l'essayiez pour avoir votre vraie opinion en l'ayant essayé.
Je me mets sur le téléphone puis j'essaie de l'essayer le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Hugo.
Merci à vous.
Merci d'avoir appelé. Et de m'avoir fait penser d'appeler Kia pour essayer cette voiture-là le plus vite possible. Parce que des fois,
sûr qu'en hiver, par contre, l'essai de la Kia Stinger est peut-être un peu moins convaincant. Là.
Bon, on va
peut-être
attendre
au printemps. Voilà, de toute façon, on va toujours avoir du
plaisir. Je peux l'essayer deux fois.
Bonne idée, ça. Tiens.
Hein?
Les gens de Kia,
là,
on va leur essayer
au printemps.
Ben oui, bonne idée.
Pourquoi pas? Voilà, on s'arrête pour une pause. Au retour, on poursuit les appels. Restez là.
Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Nous voilà de retour et j'ai une question via la Auto 360 à cogecomedia.com parce qu'au début de l'émission, j'ai dit que j'allais parler du Eclipse Cross et on n'a pas parlé encore.
T'as bien raison, mon cher. Mais je t'avoue que j'ai manqué la présentation, moi, à Los Angeles.
Tu l'as manqué, tu n'as pas manqué grand-chose parce que c'est une présentation, somme toute, très ordinaire. Mais il reste que le véhicule, lui, waouh, quel beau véhicule. Mais avant de parler du véhicule, je vais vous parler du nom. Parce que moi, l'Eclipse Cross, je suis pas vraiment content de ce nom-là. Je sais pas pourquoi Mitsubishi a accolé le mot Eclipse. On a retiré parce qu'on sait que l'Eclipse, c'est une belle petite voiture sport chez Mitsubishi qui a eu quand même beaucoup de succès. Beaucoup de personnes l'ont aimé. Alors, associe la petite voiture sport à un sport utilitaire d'entrée de gamme, parce que c'est ça, l'Eclipse Cross, ça devient le nouveau petit sport utilitaire d'entrée de gamme chez Mitsubishi. Beau design, tout est là, j'ai rien à redire, mais Eclipse Cross, ça fait pas de sens dans ma tête, parce que, prenez exemple, le meilleur exemple, c'est Ford. Si Ford sort un nouveau petit sport utilitaire, puis qu'on l'appelle la Mustang Cross, ben tu te dis, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont fous raides.
Mais c'est la deuxième c'est fois ça, que Mitsubishi fait. Mitsubishi a fait la même chose avec son utilitaire électrique, le E-Evolution. Et l'Evolution, c'était comme le monstre.
Evolution et Eclipse, tu ne touches pas à ça, parce que dans l'avenir, tu vas avoir besoin de les réutiliser parce que tu vas ressortir des véhicules de ce type-là. Alors, peu importe, c'est ce que Mitsubishi ont proposé, malheureusement, comme nom. Sauf que si on enlève le nom, si on tasse le nom, le design du véhicule est exceptionnel. À l'avant, à l'arrière, à l'intérieur, on a mis quand même une belle petite touche luxueuse à l'intérieur, même un pad tactile également un peu à la Lexus. Donc ça, rien à redire de ce côté. Deux ou quatre roues motrices vont être disponibles. Petit moteur 1.5 turbo à injection directe. C'est un nouveau moteur chez Mitsubishi. On n'a pas le nombre de chevaux, mais on dit que ça va jouer autour. D'après moi, ça va jouer autour de 160.
Ouais, ben c'est pas mal ce qu'ils nous ont habitués. Là. C'est ce qui a tourné. Ce qui se vend un peu en Europe aussi, c'est à peu près l'équivalent de ça. On n'est pas très loin, effectivement. Mais tu as raison, en termes de design, c'est vraiment un véhicule qui est super beau. Par rapport aux... Tu sais, les autres sont corrects, là, mais tu sais, on s'entend pour dire que le RVR a l'air d'un vieux véhicule déjà, même si ça fait pas tant d'années qu'il est là. Alors que l'Eclipse Cross, vraiment, on a fait quelque chose de très moderne et très raffiné.
Dans les...
là.
Petit sport utilitaire sous-compact là, de type HR-V Honda, là, si vous voulez. L'Eclipse Cross, d'après moi, est un des plus beaux qui était là. Il y a le Kona également, qui devient un nouveau sport utilitaire d'entrée de gamme sous le Tucson chez Hyundai. Et le calot de la Kicks également. Donc, il arrive là, de la concurrence puis de beaux petits véhicules sport utilitaire. Richard,
excuse-moi. Oui. Juste avant de passer, Richard, là, tu parlais des noms de l'Eclipse Cross. Je m'excuse, je peux pas m'empêcher de te parler de la Buick LaCrosse qu'on a gardé encore, et on a sorti une nouvelle déclinaison. Excusez-la, là, mais elle s'appelle la Buick LaCrosse Avenir. Je vous lance ça comme ça. Essayez de dire ça sérieusement à quelqu'un qui veut s'acheter une voiture maintenant.
Je voulais être sérieux pour parler à Richard, là, Marc. Bonjour, Richard.
Oui, salut. J'aimerais savoir si j'ai fait une bonne achat. Je me suis acheté un Kia Sportage au mois d'août 2013. 21 000 kilos. Est-ce que ça va à peine? Est-ce que c'est bon?
Vous avez acheté un 2013, 21 000 kilomètres?
Oui, un Kia Sportage.
Ben oui, vous avez fait un bon achat. D'abord, un 2013 à seulement 21 000 km, c'est déjà très, très bien. Le véhicule est beau. Il y a un beau petit design. Motorisation, c'est correct. La seule chose qu'il y a avec ce véhicule-là, c'est que moi, je le trouvais bruyant. Donc, c'est à peu près le seul défaut. Pour le reste, c'est un sport utilitaire qui est très honnête. Il n'y a pas de problème mécanique avec ce véhicule-là de détecter. Il n'y a pas d'histoire d'horreur. C'est un véhicule qui était honnête. Puis je pense que au niveau. Je veux pas savoir le prix que vous l'avez payé, là, mais faut pas l'avoir payé trop cher. Puis je pense que vous avez fait un achat correct.
Ben, j'ai payé 14.
Bon, c'est ça.
Ben, écoutez, à 21 000 km, vous avez littéralement acheté un véhicule neuf, là.
C'est
vous vous trompez pas. Et comme Daniel le dit, ce qui est intéressant du Kia, en fait, c'est qu'il était très solide, construit de façon assez solide pour résister longtemps.
Bien
équipé. Je pense que c'est un excellent choix, là.
Très bien équipé, alors.
Oui, c'est ça, c'est bien. Avant que j'arrive sur une lumière ou un stop, on dirait qu'il y a une compression, je sais pas c'est quoi, là. On dirait que le véhicule aide à freiner, je ne sais pas, là. Une compression avant que j'arrête.
Il freine plus vite ou il veut avancer quand vous freinez?
Il ralentit avant.
Il ralentit dès que vous pesez sur les freins? Ça donne pas de coup?
Non, pas de coup.
Ça donne pas de coup, alors? Pas trop de problème.
On dirait que c'est une compression qui m'aide à arrêter, je sais pas, là.
Non, c'est pas un véhicule hybride. Vous me décrivez un comportement de véhicule hybride. Mais c'est pas véhicule hybride. Merci Richard d'avoir appelé, bien gentil. Amélie est en ligne. Bonjour Amélie.
Oui, bonjour. J'attends parce que moi j'ai un Hyundai Santa Fe. modèle ouais. sport. C'est un 2010, 149 kilos. Là, je voudrais le vendre, puis la famille s'est agrandie, fait qu'on veut acheter comme une minivan, un 7 places. Je voudrais faire comme change pour change, mais je sais pas vers quoi me diriger. Je connais pas ça, moi. Je me dirige vers quoi? Un Odyssey, une Toyota, la Nissan Quest. Je sais pas vers quoi aller. Pantoute, j'ai jamais eu de cette place.
Bon, vous voulez faire un change pour change. Ça veut dire que vous voulez donner votre Santa Fe et reprendre...
Ben, je voudrais le vendre, mettons, à un particulier, puis à peu près pour le même montant que je vais avoir, me racheter un 7 places.
Bon, vous allez vous racheter une caravane.
Oui, c'est ça.
C'est une caravane. Pas d'Odyssée, pas de... Parce que je veux pas vous effrayer, mais votre Santa Fe vaut pas une fortune à 140 000 km. Donc,
combien vous pensez?
Ça vaut quelques mille dollars, là. D'après moi, un concessionnaire vous donnera autour de 3 000 $. Moi, je vous donne un 4, 5, 6 000 $ dans ces eaux-là, okay. là, dépendamment s'il est propre ou pas. Et pour le rapport qualité-prix, le meilleur sur le marché dans les mini-fourgonnettes, c'est vraiment la caravane. Vous allez pouvoir vous trouver une belle petite caravane, la faire inspecter, vous assurer que les freins, tout est correct, et vous allez pouvoir faire quand même un bon bout de temps avec cette mini-fourgonnette.
Bon, mais c'est parfait. Merci.
Merci, Émilie. Robert est en ligne. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour. Moi, j'ai un Toyota Venza 2010 V6 4 roues motrices.
Ouais.
J'aime ce véhicule-là. J'adore ce véhicule-là. Excepté qu'ils n'en font plus. Les derniers 2016, je crois. Puis j'aimerais ça le remplacer à quelque chose de le plus semblable possible à un Venza. Alors, faut que tu jales dans un Lexus RX ou il y a d'autres choses?
Il y a effectivement pas beaucoup de comparables.
J'ai un peu vendu Toyota par rapport à la fiabilité. Là.
Ouais. Ben, écoutez, il n'y a pas grand-chose de comparable au Venza dans la forme où il est. C'est-à-dire que c'est un espèce de station wagon haut sur pattes. Vous allez vous retrouver avec probablement... Ben, si vous aimez Toyota, le Highlander pourrait être un bon choix, je pense. Plus dispendieux
un peu.
Mais
c'est plus camion que voiture, parce que le Venza est plus voiture que camion.
Ouais, le Venza, il est un peu entre les deux parce qu'il est pas très haut. Il est haut sur patte, mais il est pas très haut, le toit. Tu sais, fait qu'il y a comme un centre de gravité un peu bas. Il est un petit peu large. Puis j'aime ça pour la tenue de route.
Vous l'avez dit, là, le RX, moi, dans la famille Toyota Lexus, je vois pas d'autre chose que soit vous diriger vers une voiture qui est directement une Camry qui va vous donner vraiment l'aspect de la voiture. Si vous voulez le sport utilitaire, bien, l'ARX va vous donner quand même un bon rendement. Le RAV4...
Le seul qui a la largeur du Venza, c'est l'ARX.
Ben oui, c'est ça. Ouais.
Il est beaucoup plus haut, par contre.
Il est plus gros, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé qui s'approchait le plus, à moins de trouver un autre Venza 2005.
C'est à peu près dans l'ARX, puis vous allez être tellement content avec un beau ARX. C'est tout un véhicule. D'ailleurs, merci d'avoir appelé. Et d'ailleurs, à Détroit, ils nous ont présenté la version 7 passagers. C'est assez drôle. Donc, on a ajouté 4 points quelques... où j'ai dit? Détroit encore? C'est bientôt Détroit. Los Angeles, donc, on a ajouté 4 points quelques pouces de dimension au ARX. Donc, on a ajouté une configuration 7 passagers. Et... Le LX 470, pour couper les freins, eux, ils ont coupé deux bancs.
Ouais.
Ils nous annonçaient en même temps qu'ils offraient une version 5 passagers ou LX 470 pour les gens qui ont besoin de plus d'espace. Alors, c'est assez particulier. Bonjour, Mario.
Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission.
Merci.
Moi, j'ai 40 000 km de route à faire par année environ. Présentement, j'ai un Civic. Et puis, je voulais changer mon véhicule vers un diesel. Je regarde vers le Volkswagen ou le Cruze. Cruze, au point de vue du seconde main, il y a du 2014 de disponible et il y a du 2017 flambant neuf. Mais c'est des moteurs qui sont différents, dans le 2 litres et dans le 1.6 litres. Je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait être le mieux.
Écoutez, c'est sûr que chez Volkswagen, quand on parle de diesel, c'était des moteurs qui étaient efficaces, mais on sait tous ce qui s'est passé récemment avec ces moteurs-là. Donc, ça risque d'être un peu compliqué de trouver quelque chose qui va correspondre aux normes et qui va être facilement accessible. Le Cruze est un véhicule qui s'est avéré jusqu'à date extrêmement fiable, peu importe l'année. Si vous allez chercher la version diesel, le nouveau, écoutez, vous allez avoir quelque chose de pas très dispendieux, d'assez confortable, d'assez spacieux pour le format du véhicule. Moi, honnêtement, j'irai vers une Cruze neuve. Je pense que vous regretterez pas ce geste-là.
La Cruze neuve va vous donner la garantie aussi qui vient avec. Donc ça, c'est pas à dédaigner. Moi, j'aime bien... ou aussi le choix de la Cruze. Par contre, une Jetta, si vous pouvez vous trouver une Jetta TDI récente, c'est sûr que même s'il va y avoir des petites modifications, la phase 1 devrait être faite sur le véhicule, il va y avoir une phase 2. Ça reste que au niveau du rendement, le TDI de Volkswagen était quand même supérieur. Là, ça, c'est sûr, au niveau de l'économie, probablement. La fiabilité, la Cruze, c'est trop récent pour savoir, puis il y a trop peu d'échantillons sur la route aussi pour avoir une bonne idée de sa fiabilité à long terme. C'est pour ça que moi, je vous conseille la neuve, la Cruze. Mais si vous achetez une Jetta ou une Golf, je ne serai pas tout à fait fâché. Merci d'avoir appelé, il faut déjà aller à la pause. Puis au retour, ben, on poursuit les appels, restez là.
Au réseau Cogeco, Auto 360,
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Alors, très peu de temps pour beaucoup de personnes en ligne, on va essayer d'être rapide. Bonjour Gabriel.
Bonjour, tu vas bien?
Oui, super.
Oui, mais oui, les gars, j'ai une question pour vous autres. Audi A3 2018.
Oui.
Bon achat. Bon.
Bon achat. Oui, absolument. Super achat. Pour longtemps ou pas longtemps? Location?
Non, c'est une location. C'est une location 40 mois.
Ah, vous allez adorer ce véhicule-là. Rien à dire. Amusez-vous. Belle voiture. C'est tout. Oui. C'est plate, hein? J'ai juste ça à vous dire.
C'est bon. Non,
merci, Gabriel.
La B250, là. C'est pas pareil pendant tout, là.
La A3. On reste avec ça. Bonne idée. Gary est en ligne. Bonjour, Gary.
Oui, bonjour monsieur, félicitations pour votre émission. Je vous appelle justement concernant une j'aimerais ça acheter, mettons, une Cayenne F 2006, 185 000 km. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ces véhicules.
Je vous avoue que la 2006, moi, j'ai un petit peu plus de problèmes. Là, c'est la génération qui a eu des problèmes, effectivement, du point de vue mécanique. Alors, c'est peut-être okay. un achat qui est un peu plus risqué. Évidemment, vous allez avoir le plaisir de conduire, mais ça se peut que vous ayez le plaisir de vous rendre chez votre concessionnaire un peu plus souvent que vous le voulez. Alors, okay. Moi, j'essaierais de trouver peut-être un peu plus récent. Je comprends que c'est une question de budget, mais vous allez peut-être le regagner sur l'entretien et les réparations.
OK, parce qu'en réalité, j'ai passé un budget, disons, à peu près 30 000 $ à peu près. Mais le problème, c'est parce que j'ai une BMW, la 128, mais qui n'est pas X. C'était okay, simplement okay. pour une question d'hiver, là, parce que des fois, bon, la BMW 128i, bon, ça a beaucoup de difficultés, vu que c'était une propulsion, je cherchais plus un camion. Mais c'est okay. plus la Cayenne qui m'intéressait, parce que j'aimais beaucoup le design.
Et allez pas chez BMW dans les mêmes années, parce que si vous trouvez un X5, ça va être à peu près le même genre de problème. Alors, okay. si vous voulez avoir un véhicule d'hiver fiable, descendez peut-être un peu de catégorie pour... et même chez Audi, avec le Q7 dans ces années-là, c'était pas, oui. c'était okay. pas la mer à boire non plus dans les véhicules allemands. Alors, peut-être descendre un peu de catégorie.
Okay.
Dans Acura, par exemple, MDX, qui va vous donner un beau... à 30 000 $ là, vous allez avoir un véhicule très récent, fiable, okay. Puis qui est aussi agréable à conduire. Là.
Parfait. Parce qu'en réalité, comme je vous dis, je cherchais un camion, mais je ne voulais pas me débarrasser de la petite BM, parce que j'aime bien la conduite, mais c'est plus au niveau ouais. pour l'hiver que je cherchais un camion. Ben, merci pour vos conseils.
Merci, Gary. Merci d'avoir appelé. Bien gentil. Simon est là. Bonjour, Simon.
Oui, bonjour. Je viens d'acheter récemment Subaru Forester 2016. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de cette voiture, parce que je t'entends depuis tantôt nommer plusieurs modèles et marques de sport et tout ça, puis celui-là, il n'a pas été nommé, puis par curiosité, je veux savoir si j'avais fait une belle chose.
Pas un tout. Non, c'est pas vrai.
moi, je suis un vendu Subaru. J'aime Subaru pour le côté de la traction intégrale, pour ce qu'ils sont capables d'en faire ouais. et pour offrir des véhicules qui sont relativement peu dispendieux pour la qualité. Alors, le Forester est un excellent choix. Vous n'aurez pas de problème avec ça. Moteur va claquer un peu, là. Faites-vous-en pas. C'est normal. C'est un Subaru. Pour le reste, c'est un choix. Un problème véhicule avec lequel vous n'aurez pas de misère, là.
OK. Puis, la fiabilité est super bonne aussi pour le long terme. Parce que
je vais vous dire que c'est bon, c'est moyen, de moyen à bon pour ce qui est de la fiabilité, okay. mais rendement exceptionnel au niveau du Subaru XT. Ouais. C'est vrai que je pense pas souvent à Subaru. Je les oublie. Ils pensent pas souvent à moi, je pense pas souvent à eux. Tu sais, des fois, c'est comme ça, mais j'aime beaucoup le Forester.
OK, parce que je pense que j'ai pogné un bon deal. Je l'ai acheté avec 12 000 km seulement, c'est en 2016, donc... Ah. Puis, 250 chevaux en plus.
Vous l'entretenez, vous négligez pas vos changements d'huile. Quand il va prendre de l'âge au niveau du kilométrage, vous vérifiez votre huile régulièrement. et vous devriez avoir ce véhicule-là très longtemps. Merci beaucoup, Marc.
Bien, merci. Bonne semaine, mon cher.
On se reparle la semaine prochaine. Merci à Philippe. Et pour nous, bien, évidemment, on se reparle la semaine prochaine pour un autre Auto 360.
Soyez là samedi prochain pour une autre édition d'Auto 360 avec Daniel Boudreau.